Donc je voulais d'abord replacer un peu le contexte. On va beaucoup parler d'infection tuberculeuse latente, comme on vient un peu d'en parler. Et donc quelques chiffres que vous connaissez, mais qui soient bien fixés. Dans l'entourage proche d'un tuberculeux, on estime classiquement qu'il y aura à peu près un tiers de son entourage qui va avoir une infection tuberculeuse, et que dans ce tiers, 10% vont développer une tuberculose maladie, et très classiquement, à peu près la moitié dans la foulée de l'infection, la première année ou les deux premières années, et l'autre moitié un peu n'importe quand dans la vie, peut-être à l'occasion d'une immunodépression. Et donc c'est ce bassin d'infection tuberculeuse latente, donc qui est ici, qui va bien sûr poser problème quand on va parler de biothérapie, en particulier d'anti-TNF. Donc les biothérapies, donc qu'est-ce que c'est? Donc les biologics, ce sont, contrairement à des médicaments synthétiques, ce sont des produits, des médicaments d'origine naturelle, donc soit humaine, soit animale, soit de micro-organismes. Ça peut être éventuellement des traitements, mais ça peut être aussi des tests biologiques. Et donc là-dedans, il y a des extraits sanguins, il y a des vaccins, il y a des tissus, il y a également des thérapies géniques ou des thérapies cellulaires. Donc c'est tout ça qu'on appelle les biothérapies. Mais évidemment, ce dont je vais vous parler en particulier, c'est ce qui expose au risque de tuberculose, et c'est principalement les anti-TNF. Donc dans les anti-TNF, en fonction de leur mécanisme d'action, il y a deux grandes catégories. Il y a les anticorps monoclonaux qui vont se fixer à la fois au TNF transmembranaire et au TNF qui est soluble. Donc dans cela, il y a l'infliximab, qui est le Remicade. Il y a l'adalimumab, qui est l'Humira, le certolizumab, qui est le Cimzia, et le golimumab, qui est le Simponi. Et puis, il y a, d'un autre côté, les récepteurs du TNF soluble, qui vont se fixer au TNF soluble, qui vont aussi un peu se fixer au TNF transmembranaire, mais moins que les autres. D'accord ? Et donc, ça, c'est une différence importante, on le reverra après. Et donc là, c'est l'éthanercept, c'est l'ombrelle. L'utilisation de ces molécules, vous le connaissez, c'est les maladies inflammatoires auto-immunes, donc soit rhumatismales, soit digestives, soit cutanées. Alors le TNF en tuberculose, donc là ça c'est, moi je suis pas du tout immunologiste, donc ça c'est à peu près le maximum de ce que je peux vous faire en immunologie. Donc à quoi ça sert en tuberculose? Eh bien, il y a le TNF qui est sécrété par les macrophages, donc ils vont stimuler les lymphocytes T. Il y a celui qui est sécrété par les lymphocytes T qui vont augmenter l'activité mycobactéricide du macrophage, c'est-à-dire qu'il va être capable de tuer les mycobactéries qu'il a phagocytées. Et puis surtout, le TNF va participer au recrutement de cellules mononucléées et à l'organisation du granulome qui va contenir l'infection tuberculeuse. Alors il y a un peu des débats d'experts pour savoir si le granulome et le moyen qu'a trouvé l'organisme pour contenir le bacille tuberculeux, ou si en fait c'est le bacille tuberculeux lui-même qui organise le granulome pour échapper à la réponse immune. Le fait est que quand on donne des anti-TNF, on va complètement désorganiser le granulome, il va y avoir une dissémination de mycobactéries et des tuberculoses assez graves. Donc là on a quand même l'impression que le granulome, ça permet en tout cas en partie de contenir l'infection. Alors, donc, anti-TNF et tuberculose. Donc, voilà un des premiers, ou le premier, je ne sais pas exactement, essai sur l'infliximab pour la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est une publication qui date de 1999 dans le Lancet. Et quand on regarde ici l'efficacité du traitement sur la polyarthrite rhumatoïde, on est très content. Il y a un meilleur contrôle de la polyarthrite rhumatoïde par rapport au méthotrexate. Et puis, quand on regarde également les effets secondaires, tout va très bien aussi. Il n'y a pas plus d'effets secondaires sévères que dans le groupe placebo et en particulier pas plus d'infections sérieuses. Vous voyez, c'est écrit ici, tout va très bien. Mais quand même, quand on lit l'article entièrement, donc pas que le résumé, il y a un patient qui a eu la tuberculose. Bon, ça arrive. Il a fait quand même une tuberculose disséminée et puis il est quand même mort. Bon, donc c'est mentionné, mais ça fait. Voilà, je pense qu'il pensait que c'était peut-être un peu le hasard. 2 ans après, en 2001, dans un journal de gastroentérologie, un petit cas clinique d'un patient qui a une maladie de Crohn, qui est aussi sous infliximab, qui développe aussi un tableau de tuberculose disséminée. Il y a à la fois des bacilles tuberculeux qui sont retrouvés dans le poumon et dans les urines. Là, il est mis sous traitement et il guérit. Et donc, vous voyez, On voit apparaître des cas cliniques qui rapportent des cas de tuberculose comme ça chez des gens qui ont des anti-TNF. Et donc finalement, je pense qu'il y a un certain nombre de docteurs qui ont commencé à en voir. Et l'étude, je dirais, qui a apporté la lumière là-dessus, ça a été cette étude, donc qui est parue dans le New England en octobre 2001. Et donc cette étude, ça a été quoi ? Il y a eu, vous voyez, à peu près 150 000 patients qui, entre 1998 et 2001, ont reçu des anti-TNF. Alors vous voyez ici, principalement pour maladie de Crohn et polyarthrite rhumatoïde. Eh bien, dans une base de données qui rapporte des effets secondaires, donc qui s'appelle MedWatch, ils sont allés regarder le nombre de cas de tuberculose qui avait été rapporté chez les patients qui recevaient de l'infliximab. Et donc, il y a eu 70 cas de tuberculose qui sont survenus en médiane en 12 semaines, donc 1 à 52 semaines, mais en médiane, c'était en 3 mois. Mais surtout, et ce qui correspondait bien au cas clinique que je vous ai montré précédemment, ce qui était assez étonnant, c'est qu'il n'y avait qu'un tiers de tuberculose qui était localisée au poumon. La normale, hein, c'est 70 à 80%. Là, c'était qu'un tiers. Il y avait un tiers de tuberculose extrapulmonaire et encore un tiers de tuberculose disséminée. Et je vous ai fait la liste parce que je trouve que c'est bien de l'avoir en tête, des tuberculoses extrapulmonaires. Il y avait bien sûr des tuberculoses ganglionnaires, qui est la forme la plus classique. Il y avait des tuberculoses péritonéales, il y avait des tuberculoses pleurales, il y avait des méningées digestives, mal de pote, osseuses, génito-urinaires. Donc vous voyez là-dedans, il y a à la fois des tuberculoses graves en termes d'atteinte, mais il y a aussi des tuberculoses difficiles à diagnostiquer. La tuberculose digestive, péritonéale, ce n'est pas forcément des diagnostics très simples. Donc, vous voyez finalement un tableau de tuberculose extrapulmonaire et qui arrive avec l'infliximab en médiane dans les 3 premiers mois. Alors, comment se fait-il qu'on est un peu surpris que dans le premier essai, on n'ait pas vu ça ? Et le fait qu'on ne le voit pas dans le premier essai, qui est un essai clinique, ça a été confirmé. Et ça, j'ai trouvé ça assez intéressant, c'est une méta-analyse de différentes biothérapies, en particulier des anti-TNF. Et vous avez ici le risque de tuberculose durant l'essai. Et ce que vous voyez, c'est que si on compile ces risques ici, le surrisque, il est non significatif. D'accord ? 1,92, l'intervalle de confiance, 0,9 à 4, ça comprend 1, c'est non significatif. Et donc, en fait, quand on regarde uniquement la période de l'essai, on ne voit pas de surrisque de tuberculose. D'accord ? Donc ça, je pense que c'est vraiment un point important pour le futur sur la façon dont on gère la surveillance des effets secondaires. Mais en revanche, dans un certain nombre de ces études ne se sont pas arrêtées à la période de l'essai, mais ont continué à surveiller les patients après. Ce n'était plus l'essai, mais on a continué à les surveiller. C'est ce qu'ils appellent ici « long-term exposition studies ». Et là, quand on les a surveillés un peu plus loin, on a commencé à pouvoir bien identifier les surrisques. Et vous voyez, sur celles que je vous ai listées ici, il y a un surrisque pour toutes les biothérapies qui sont évaluées ici, à part pour le rituximab. D'accord ? Mais là, vous voyez, il fallait des périodes de surveillance qui étaient un peu plus longues que la période de l'essai. Donc vous voyez, ça c'est un point qui me paraît important. L'essai clinique ne permet pas de tout voir. Alors deuxième chose, et on va y revenir un peu plus en détail, vous voyez qu'il y a un surrisque pour toutes les biothérapies, mais que ce surrisque, il n'est pas le même, et il est évidemment le plus important ici pour les anti-TNF. Alors, comme les essais cliniques ne permettaient pas de bien mesurer ces surrisques, eh bien, il y a un certain nombre de pays, de sociétés savantes, qui ont mis en place des registres pour essayer de surveiller ces événements rares et de pouvoir les mesurer. Et finalement, ce sont ces registres qui ont permis d'apporter des chiffres et de voir qu'il y avait effectivement un surrisque qui était important. Donc vous avez ici pour l'infliximab, donc les compilations de registres de plusieurs pays différents, et vous allez uniquement regarder cette colonne. Le chiffre de gauche, c'est l'incidence de la tuberculose dans la population sous anti-TNF pour 100 000 habitants, et la colonne de droite, c'est le chiffre de référence pour le pays. Et vous voyez par exemple l'étude ratio, qui est l'étude française, 187 cas pour 100 000 habitants chez les patients sous anti-TNF pour une incidence de base en France de 8 cas pour 100 000 habitants. Donc il y a très clairement un surrisque. Si on regarde le Japon, 280 pour 25. Donc ça, c'est l'infliximab. Adalimumab, eh ben, pareil, même chanson. L'étude ratio en France, 215 cas pour 100 000 contre 8. Et l'étude japonaise, pareil, 133 pour 25. L'étanercept, étude ratio pas de sur-risque, 9 contre 8, c'est exactement pareil, mais il y a un certain nombre d'autres études qui trouvent des sur-risques, donc par exemple l'étude japonaise, où, vous voyez, on est multiplié par 4. Donc si on compile les données de l'ensemble de ces registres pour voir quel est le sur-risque par rapport à la population générale quand on reçoit des anti-TNF, et ben vous voyez, c'est le, ici en moyenne ou en médiane, peu importe, de l'ordre de 10 à 20 pour l'infliximable et l'adalimumab, c'est-à-dire les anticorps monoclonaux, et 4 à 5 pour le récepteur soluble. D'accord ? Donc il y a vraiment un sur-risque, et ce sur-risque, il est plus important pour les anticorps monoclonaux par rapport au récepteur soluble. Et vous vous souvenez tout à l'heure que le récepteur soluble, il ne se fixe pas bien sur le TNF transmembranaire, donc il y a une certaine logique à ce plus faible risque. Donc vous voyez, il y a une augmentation du risque due à ces médicaments. Alors, avant de parler du terrain, une étude, une modélisation ici que j'ai trouvée assez intéressante. Comme l'infliximab et l'étanercept n'apportent pas le même risque, Wallis a fait ce travail de modélisation pour voir comment dans le temps se différencier le risque. Et en fait, ce qu'il montre ici, vous avez ici la probabilité de survenue d'une tuberculose au cours des 2 premières années. Ici, c'est l'étanercept et là, c'est l'infliximab. Et les tuberculoses surviennent beaucoup plus tôt avec l'infliximab, mais après, les deux courbes se rejoignent. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'infliximab va beaucoup plus réactiver des tuberculoses anciennes que l'étanercept. Mais une fois, je dirais que toutes les tuberculoses anciennes ont été réactivées, on est sur un même risque, qui est le risque de développement d'une tuberculose après un nouveau comptage. Si on se réinfecte pendant qu'on est sous anti-TNF, hein, parce qu'il n'y a pas que les tuberculoses anciennes, on peut se réinfecter, et bien là, les risques sont équivalents. Et j'y reviendrai après, ça me paraît un point important. Il y a bien sûr le passé, mais il faut aussi s'occuper de ce qui peut arriver maintenant. Alors, ces patients sont donc plus à risque de développer une tuberculose, mais ce qui a été intéressant, c'est que ça a lancé un certain nombre de travaux où on s'est aussi posé la question de, finalement, est-ce que tout est dû à l'anti-TNF ou est-ce qu'il n'y a pas aussi une part du risque qui est due aux autres maladies, aux comorbidités ou peut-être même à la maladie qui a indiqué l'anti-TNF. Et donc, la réponse, c'est oui, et c'est très bien montré ici par une étude sur la polyarthrite rhumatoïde par rapport à une population de référence qui est bien triée. Le simple fait d'avoir une polyarthrite rhumatoïde multiplie le risque de tuberculose par 2. Et si on regarde maintenant le risque de l'anti-TNF par rapport à la bonne population de référence qui sont ceux qui ont une polyarthrite rhumatoïde et non pas la population générale, là le risque il est uniquement multiplié par 4. Donc vous voyez dans ce pays, le risque total il est multiplié par 8, mais en fait il y a un x2 à l'intérieur qui est dû à la polyarthrite rhumatoïde et non pas uniquement aux anti-TNF. Alors ça c'est la polyarthrite rhumatoïde. Et il y a bien sûr tout un tas d'autres facteurs de risque de tuberculose dans ces populations, donc que ce soit les autres immunosuppresseurs ou un certain nombre d'autres maladies et que vous connaissez bien, l'insuffisance rénale ou le diabète, un certain nombre d'autres choses qui vont augmenter les risques de tuberculose. Et donc évidemment, quand on mesure le risque par rapport à la population générale, ces patients qui reçoivent des anti-TNF, ils ont un certain nombre d'autres comorbidités qui augmentent les risques. Et donc tout n'est pas dû à l'anti-TNF. Pour finir sur les chiffres, simplement un peu de mise en perspective, hein, parce qu'on est toujours très inquiet des anti-TNF et à juste titre, parce que c'est nous qui les prescrivons et donc on prend une responsabilité. Mais vous voyez ici, donc par rapport à un certain nombre d'autres facteurs de risque classiques de tuberculose, donc ça, 1,5 à 17, c'est le risque relatif des anti-TNF. Il y a quand même beaucoup plus, hein, et par exemple, transplantation, infection par le VIH, voire même sida, les risques sont beaucoup, beaucoup plus élevés. D'accord ? Donc, c'est important, il faut s'occuper des anti-TNF et éviter qu'ils développent des tuberculoses, mais on a d'autres populations qui sont autant, voire plus à risque, et dont il faut aussi très bien s'occuper. Dernier point, quand on lit des études et qu'on regarde les risques, souvent, ces études sont des études internationales, évidemment, dans l'international, il y a quelque chose qui disparaît, qui est gommé, qui est l'incidence locale de la tuberculose. Et évidemment, quand on essaie de revoir le risque de tuberculose dans la population sous anti-TNF et qu'on le stratifie en fonction de l'incidence de la tuberculose dans le pays, évidemment, les choses sont très différentes. Donc, je vous ai donné ici l'exemple du sertolizumab. L'incidence pour 100 000 habitants des patients qui recevaient ce médicament, elle est de 50 aux États-Unis, en Amérique, 200 en Europe de l'Ouest, 600 en Europe centrale et 1000 en Europe de l'Est. Donc évidemment, plus l'incidence du pays tuberculeuse est élevée, plus il y a un risque chez les patients qui sont sous anti-TNF. Et donc, c'est des choses qu'il faut bien regarder, en particulier quand c'est des études qui compilent plusieurs pays. Alors, que faire maintenant qu'on a constaté qu'il y avait ce sur-risque? Comment prévenir la survenue d'une tuberculose maladie? Maintenant qu'on est informé, il faut faire quelque chose. Et ben là, en fait, ce que je vous montre, c'est quasiment le dernier chapitre de l'article du New England que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, vous voyez, c'est 2001 et tout était écrit là-dedans. C'est-à-dire, ils ont suggéré des choses qui sont vraiment du bon sens. Et finalement, il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis 2001. Donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut évaluer le risque de tuberculose. Donc, est-ce que le patient a eu un contage? Est-ce qu'il a des antécédents de tuberculose? Il faut faire un test tuberculinique, mais ce test tuberculinique peut être négatif. Et il va falloir proposer une chimioprophylaxie pour éviter, pour stériliser l'infection tuberculeuse latente. Donc, tout était déjà dit. Il n'y a pas eu grand-chose de nouveau depuis ce papier de 2001. Est-ce que cette stratégie, elle fonctionne? Ben, c'est très bien montré dans ce papier espagnol. Oui, ça fonctionne. Donc, l'Espagne, c'est un pays où l'incidence de la tuberculose, c'est de l'ordre de 10 cas pour 100 000 habitants. Ici, vous avez une étude où il y avait un peu plus de 5 000 patients qui avaient différents anti-TNF. Et ils ont décidé de leur proposer un traitement d'infection tuberculeuse latente basé sur cet arbre diagnostique. Donc, on leur faisait une IDR. Si elle était supérieure à 5 mm, ils avaient droit à un traitement chimioprophylactique. Si elle était inférieure à 5 mm, ils refaisaient une IDR une semaine après. C'était leur protocole. Si c'était supérieur à 5, chimioprophylaxie. Il y avait de toute façon une radio, s'il y avait des images de tuberculose, il y avait un traitement. Et bien sûr, s'ils avaient un comptage tuberculeux, ils avaient un traitement. Et là, en l'occurrence, leur traitement, c'était isoniazide 9 mois. Donc, basé sur cette stratégie, donc avant qu'ils mettent en place cette stratégie, le risque relatif par rapport à la population générale, c'était 19. Après qu'ils aient mis en place cette stratégie, le risque relatif était toujours élevé, il était de 7. Mais en fait, si on regarde bien, ils ont séparé les patients compliants et les patients non compliants. Parmi les patients qui étaient compliants à la stratégie, le risque relatif, eh bien, il était de 1,8, mais il n'était pas différent de la population générale. Donc, à partir du moment où ils suivaient ce protocole, le sur-risque disparaissait. En revanche, ceux qui n'étaient pas compliants, donc les mauvais élèves, eux, finalement, ils avaient le même sur-risque qu'auparavant. Donc là, on démontre qu'avec une stratégie basée sur l'IDR et une chimioprophylaxie assez large, hein, 5 mm, c'est vraiment... on a pris des choses assez basses et surtout en faisant l'IDR, eh bien, on réduit dans un pays à faible incidence le risque à zéro et il n'y a que les patients non compliants qui ont toujours un sur-risque. Voilà, il y a une autre étude qui a confirmé aussi une stratégie basée sur l'IDR 5 mm. Alors ça, c'était la confirmation qu'une stratégie de traitement prophylactique fonctionne. Après, il y a eu énormément de recommandations, et je terminerai aussi par ça tout à l'heure. Beaucoup de pays se sont prononcés sur comment est-ce qu'il fallait prévenir et quoi faire. Donc globalement, tout le monde dit qu'il faut faire un test qui va être une IDR ou un test IGRA, je vais y revenir. Il faut voir si les patients ont un antécédent de tuberculose, et puis il faut faire une radiographie pulmonaire. Et le point, je dirais, qui est le plus variable, c'est cette histoire-là, de savoir s'il faut faire un test IGRA ou s'il faut faire une IDR. Alors, ça, on vient de le voir, l'IGRA, par rapport à l'IDR, et là, je suis dans l'enquête autour d'un cas, hein, je sors un peu de la donnée anti-TNF, on sait que c'est globalement un peu plus prédictif que l'IDR. Donc, une étude de Roland Dill, là, qui avait bien regardé ça, dans l'enquête autour d'un cas, les patients qui ont une IDR supérieure à 5 mm, 2% développent une tuberculose maladie, ceux qui ont un quantiféron positif, 15% développent une tuberculose maladie. Donc là, on avait un test quantiféron qui paraissait avoir une meilleure valeur prédictive positive et en particulier de traiter moins de patients. Alors, qu'en est-il dans la population des gens qui ont une maladie auto-immune, puisqu'on a vu que ce n'est pas les mêmes que les autres, donc on veut des données chez eux. Y a-t-il des patients qui ont effectivement une IDR positive et un test IGRA négatif, c'est-à-dire quelque chose qui plaiderait pour les IGRA? Eh bien, c'est assez variable selon les études, 6 à 48%, mais je pense que vous ne voyez pas les chiffres. Globalement, les pays qui ont des tests IDR positifs et IGRA négatifs sont sans surprise des pays qui vaccinent largement pour le BCG. D'accord ? Donc là, ces patients IDR+, IGRA-, ils existent dans cette population, mais c'est surtout dans les pays qui vaccinent beaucoup pour le BCG. Et donc voilà une étude française, on vaccine beaucoup par le BCG en France, un peu moins de 400 patients qui étaient censés recevoir des anti-TNF, un tiers avait une IDR positive, contre 10 à 15% qui avaient un test IGRA positif. Basé sur le résultat de l'IDR, on aurait dû proposer une chimioprophylaxie à 177 patients, contre seulement 84 si on se basait sur le stade du quantiféron. Donc la moitié de ces patients, et donc on a l'impression qu'on peut réduire la population à qui on va proposer une chimioprophylaxie. Le problème, c'est que l'étude, elle s'arrête là. On n'a pas la suite, c'est est-ce que ça marche et est-ce qu'effectivement, en suivant la stratégie alternative, on prévient les tuberculoses. Et alors, pour pondérer l'éventuel engouement que vous pourriez avoir pour les IGRA, je vous présente cette étude, un peu plus de 2000 patients. Alors, c'était une étude Golimumab, c'est une étude internationale. Donc, ça mélange des pays à faible et à forte incidence, donc tout est mélangé. Donc, vous avez en haut donc, les résultats des tests dans la population vaccinée par le BCG. Donc, sans surprise, il y a plus d'IDR positif que de tests IGRA positif. Donc, ça, vous y attendiez, c'est vraiment pas une surprise. Plus intéressant, dans la population non vaccinée, il y a 5% d'IDR positif et 6% d'IGRA positif. Donc, quand on regarde les chiffres, si on lit que le résumé de l'article, on est content, on se dit bah, finalement c'est concordant, tout va bien. Mais si on regarde après les dessins de l'article, sans même lire le texte, ça c'est les IGRA positifs, ça c'est les IDR positifs, il y en a à peu près 150 en tout, il n'y en a que 24 qui sont positifs avec les deux. C'est quasiment, ils n'identifient pas les mêmes populations. Alors les auteurs concluent, je vous l'ai mis là, ça c'est là, c'est ce que les auteurs ont écrit, que les tests IGRA sont plus spécifiques, oui probablement chez les vaccinés, et ils disent probablement, non possiblement, un peu plus sensibles. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, et quand je regarde ça, je me dis que quand on voit ça, on a plutôt envie de faire les deux tests. Et on a du mal à savoir qui a raison entre celui-là et celui-là, sur qui a une infection tuberculeuse latente, sans avoir de données prospectives qui viennent après. Mais en tout cas, à mon sens, dans cette population non vaccinée, c'est un peu difficile de dire que lui a raison et que l'autre n'a pas raison. Dans un pays à forte incidence, la Corée, à peu près 100 cas pour 100 000 habitants, 400 patients qui sont mis sous anti-TNF et qui vont être suivis pendant un an, on leur propose un screening où on fait justement les deux, et l'IDR et le quantiféron. Les patients sont mis au traitement qu'ils aient une IDR positif ou un quantiféron positif. Donc, ils sont plutôt convaincus par ce que je vous disais avant. Et là, l'IDR est prise à 10 mm. Les patients sont suivis un an. Dans ceux qui étaient traités, aucun cas de tuberculose n'est développé, mais ils ont quand même eu 6 cas de tuberculose dans leur cohorte, ce que eux trouvaient très bas. Donc, comme quoi, c'est un peu relatif la notion du risque. Aucun de ces patients n'avait un test positif initialement, et donc c'est possiblement des comptages, des tuberculoses acquises après la chimioprophylaxie. En tout cas, dans ce pays à forte incidence, bien cette étude qui, elle, est prospective et a suivi des patients, ça valide plutôt leur stratégie de faire les deux tests. Et ça vous prouve aussi que dans une zone à forte incidence, même une stratégie très complète où on inclut un maximum de patients, ça ne réduit pas le risque à zéro. D'accord ? Et il y a, je vais y revenir après, je pense un point qui est important, qui est de continuer à surveiller les patients après. Alors voilà justement une revue de recommandations internationales. Je vous en ai déjà montré une tout à l'heure, mais ça, celle-ci est plus récente. Donc pour voir un peu ce que font les différents pays. Donc globalement, tout le monde dit de faire une IDR, donc à part en Suisse, tout le monde est d'accord pour faire une IDR. Est-ce qu'on fait un test IGRA ? Il y a à peu près la moitié des pays qui recommandent de le faire, et tous recommandent de le faire, quand ils le recommandent, c'est quand on a une vaccination BCG. Donc quand il y a une population vaccinée par le BCG, il y a la moitié des pays qui disent « oui, il faut proposer un IGRA plutôt qu'une IDR ». Est-ce qu'il faut faire une radiographie thoracique ? Oui. Est-ce qu'il faut faire une chimioprophylaxie ? Donc évidemment, oui. Et alors là, je ne suis pas rentré là-dedans parce qu'il n'y a finalement pas de données qui a apporté grand-chose par rapport à ce qu'on avait avant. C'est toujours soit isoniazide 6 mois, soit 9 mois, soit rifampicine seul 4 mois, soit isoniazide rifampicine 3 mois. Il y a les mêmes variations qu'avant. Et puis, un point donc, qui me paraît important, il faut continuer à faire du screening chez les patients à haut risque. Donc les patients à haut risque, on ne s'arrête pas à la chimioprophylaxie, on va continuer à leur faire des screenings périodiques après. Alors, à qui est-ce qu'on propose tout cet arsenal? Alors, il n'y a que deux pays qui disent à toutes les biothérapies. La plupart des autres disent uniquement les anti-TNF. Donc ça, c'est, je dirais, un peu ce qui fait consensus. Alors, pour finir et pour insister sur l'idée qu'il faut bien surveiller les patients, je vais vous raconter un cas qui est survenu dans mon hôpital, donc à Paris. Il s'agit d'un homme de 34 ans qui est schizophrène. Alors, une schizophrénie vraiment assez légère, mais bon, il est schizophrène. Et il a une spondylarthrite ankylosante pour laquelle il est suivi en rhumatologie, donc à la Pitié-Salpêtrière. En 2008, on décide de lui mettre de l'adalimumab, donc on lui fait une IDR qui est, je crois, à 10 mm, hein, je ne lis plus très bien, et donc on veut lui proposer un traitement par isoniazide rifampicine pendant 3 mois. Donc il a l'adalimumab pendant 3 ans, on arrête, et puis en 2012, on reprend, et en juin 2014, il a un tableau de fièvre, de toux, d'asthénie, et on va faire un diagnostic de tuberculose disséminée, le foie, la rate, les testicules, le poumon, il y en a partout. Donc la souche, ça pousse dans mon laboratoire, et on fait les tests moléculaires de résistance. Il y a une mutation dans le gène 4G, c'est une souche résistante à l'isoniazide. Une mutation dans le gène RPOB, c'est une souche donc multirésistante. Il y a une mutation dans le gène RRS pour les aminosides. Il y a une mutation dans le gène JIRA pour les quinolones. Et donc, c'est une souche ultra-résistante qui n'était sensible qu'au linésolide, au PAS et à la cyclosérine. On fait le génotypage, hein, ce qui permet de savoir, de relier les souches entre elles. Et dans toutes les souches multirésistantes qu'on a, et il y a à peu près toutes les souches françaises depuis 2006, il y a une seule souche identique qui a exactement le même génotype de résistance. C'est celle d'un homme de 38 ans, qui est toxicomane, séropositif pour le VIH et pour le VHC, qui est traité dans le service de maladies infectieuses de la Pitié-Salpêtrière et qui n'est pas compliant à l'isolement respiratoire. Et quand je vous dis qu'il n'est pas compliant, il sort du bâtiment, il sort même de l'hôpital. Donc quand ça survient, on s'est dit, il faut absolument qu'on voit ce qui s'est passé. Donc on lance l'enquête Sherlock Holmes. Et je ne vais pas vous faire le détail de ce schéma, ces deux patients n'ont jamais été hospitalisés en même temps à la Pitié-Salpêtrière. Il n'y a aucun moment, voire même pour des examens, il n'y a aucun moment où ils étaient présents, en tout cas d'après des registres qu'on a, ils étaient présents en même temps sur l'hôpital. Non, ils n'étaient pas présents en même temps, mais du coup on s'est dit, voyons voir ce qui se passe en dehors de l'hôpital. Et alors, il y en a peut-être parmi d'entre vous qui connaissent la Pitié-Salpêtrière. Donc ça, c'est le boulevard Vincent-Auriol, là c'est le métro Chevaleret. Ça, c'est le bâtiment des maladies infectieuses. On peut sortir par ici ou par là. Donc, et là, le patient qui a attrapé la tuberculose, il habite juste en face de l'hôpital. Et donc, le tuberculeux multirésistant, il allait faire ses courses. Il y a un supermarché ici. Il faisait ses courses ici. Puis, il faisait, je pense, aussi un peu de trafic par ici. Donc, on n'en a pas la preuve. Hein, et puis, avec le patient schizophrène, on a eu du mal. Mais on pense que le contact s'est fait autour de l'hôpital. Et il a attrapé la tuberculose dans ces conditions. Bon, tout ça pour vous dire que ça me paraît important, c'est très bien de prévenir la tuberculose, mais il faut vraiment se soucier de ce qui se passe dans nos hôpitaux et faire très attention. On a énormément d'immunodéprimés, là c'est les anti-TNF, mais il y en a d'autres, et donc il faut vraiment faire attention à avoir le plus possible des circuits séparés. Donc ça c'est mon avant-dernière diapo. Juste pour vous dire que les biothérapies, bien sûr, c'est des facteurs de risque de tuberculose, en particulier les anti-TNF, mais c'est aussi des pistes pour le traitement de la tuberculose, et donc c'est des pistes peut-être un peu lointaines, hein, mais voyez une revue récente où des produits sont envisagés pour essayer d'améliorer le traitement de la tuberculose, soit en augmentant l'efficacité du macrophage, soit en essayant de limiter un peu les dégâts au niveau du poumon. Et donc en conclusion, les anti-TNF augmentent le risque de tuberculose chez les patients infectés. Il y a un consensus sur le traitement des gens qui ont une infection tuberculeuse latente. Vous avez vu, le consensus n'est pas si clair sur le choix entre IDR et test IGRA. Et moi, ce qui me paraît important, c'est une fois qu'on a traité l'infection tuberculeuse latente ancienne, on n'a pas fini le travail pour la tuberculose. Il faut quand même faire attention qu'ils n'aient pas à nouveau des comptages qui vont à nouveau les mettre à risque. Je vous remercie.